L'année 1968, avec ses mobilisations un peu partout dans le monde, sonne le réveil face à la dictature brésilienne. À Belo Horizonte, dans le Minas Gerais, 1700 ouvriers en grève prennent en otage la direction de la compagnie belgeminière. Des occupations d'usines ont lieu à São Paulo. La répression s'abat sur ces travailleurs courageux. La mort d'un étudiant abattu par la police à Rio provoque une manifestation de 100 000 personnes. La police ferme des universités, arrête des centaines d'étudiants. Les chanteurs contestataires Gilberto Gil, Caetano Veloso et Chico Buarque doivent s'exiler. La dictature se durcit et suspend ce qu'il restait de liberté. Des militants, en rupture avec le Parti communiste, influencés par le maoïsme et Che Guevara, se lancent dans des guérillas urbaines puis rurales. L'ambassadeur des États-Unis est enlevé en 1969 et échangé contre 15 détenus politiques. La dictature démantèle ces groupes qui restent cantonnés au milieu universitaire et ne trouvent pas le soutien ni des paysans ni des ouvriers. À partir du milieu des années 1970, les généraux commencent à évoquer le retour d'un pouvoir civil et d'élections libres. C'est une marche à pas compter, sous la pression de la montée d'une opposition de plus en plus large qui s'exprime en faveur du retour aux libertés démocratiques. L'Église catholique prend aussi un tournant qui fait d'elle un des pôles d'opposition à la dictature. Sa hiérarchie subit la pression des communautés catholiques de base qui s'inspirent de la théologie de la libération. De quelques dizaines en 1967, ces communautés ecclésiales sont 40 000 en 1975, le double en 1979. Le début des années 1970 voit l'économie capitaliste mondiale commencer son plongeon dans une crise sans fin. Les généraux brésiliens réagissent à l'augmentation des prix du pétrole importé par un renforcement des investissements publics dans Petrobras. Des barrages hydroélectriques voient le jour, comme celui d'Itaipu, construit conjointement avec le Paraguay sur le fleuve Paraná, qui sera pendant 30 ans le plus grand du monde. De 1971 à 1978, la dette publique est multipliée par 6, mettant le pays à la merci des banques occidentales. Cruelle ironie de l'histoire du développement capitaliste, une grande partie des capitaux de la bourgeoisie impérialiste proviennent de l'exploitation sur plusieurs siècles des richesses naturelles de pays comme le Brésil et du travail des peuples qui ont été durement exploités. Puis, quand ces pays pauvres ont besoin de capitaux pour se développer, cela les plonge dans la dépendance financière de cette même bourgeoisie impérialiste. Le prétendu miracle économique brésilien a vécu. En 1981, pour la première fois depuis longtemps, le PIB chute de 4,5%. L'inflation repart de plus belle. Et quand le Mexique fait défaut sur sa dette en 1982, le FMI impose aussi au Brésil un ajustement structurel. Le revenu par tête chute de 10%. Plus de 30% de la population active est au chômage ou sous-employée. Des émeutes de la faim éclatent à São Paulo en 1983 avec pillage de magasins. La dictature perd pied. Mais la dictature n'a pas pris fin par elle-même, sous le poids de la crise économique, ni par la pression morale des curés adeptes de la théologie de la libération, ni grâce au dévouement des guérilleros. Elle a succombé aux luttes du prolétariat industriel. Silencieuse depuis les grèves de 1968, la classe ouvrière se remet en mouvement à la fin des années 1970. Bien des obstacles sont pourtant à surmonter pour faire grève sous la dictature. Il y a la peur de se faire arrêter, ce qui est souvent le cas des dirigeants. Et il est très compliqué de faire grève légalement, tant les généraux ont multiplié les conditions. Il faut un vote secret en Assemblée générale, convoqué par le syndicat officiel, puis l'ouverture de négociations avec le patron et le ministère du Travail, pendant lesquelles il est interdit de commencer la grève. Il faut avoir 18 ans pour voter la grève, alors qu'on travaille bien plus jeune. Toutefois, en mars 1979, les métallurgistes de San Bernardo paralysent l'industrie automobile dans l'agglomération de São Paulo et tiennent bon malgré les licenciements et la répression. Ils obtiennent en grande partie satisfaction sur des revendications salariales. Les travailleurs ruraux sont également en mouvement. En octobre 1979, ce sont 20 000 travailleurs de la canne à sucre qui obtiennent 52% d'augmentation de salaire dans le Pernambouc, au nord-est. 6 mois plus tard, ce sont à nouveau 150 000 ouvriers de l'automobile à São Paulo qui sont en grève. C'est sous cette pression que la censure est supprimée et les prisonniers politiques amnistiés en 1979, quand, au sommet de la vague gréviste, 3 millions de salariés cessent le travail. En 1980, une grève de 41 jours de 250 000 métallos de la région de São Paulo pour une augmentation de 15% des salaires et une réduction de la semaine de travail à 44 heures est ponctuée par un meeting géant de 50 000 ouvriers dans un stade. L'ambiance est électrique. Ainsi, un jour, un militant venant seul devant une usine avec un journal titrant « Tous en grève » suffit à déclencher un mouvement gagnant de proche en proche les usines voisines, propulsant ce militant à la tête de 10 000 grévistes. Les travailleurs en lutte secouent l'appareil syndical mis en place par les militaires. Les syndicats au Brésil sont très grands et très riches de l'impôt syndical. Plus d'un demi-million de métallos de São Paulo sont affiliés au même syndicat. Mais les bureaucrates à leur tête, pro-patronaux et soutien de la dictature, sont haïs. Les ouvriers débarrassent bien des syndicats de leurs dirigeants pourris et les remplacent par des militants combatifs. Dans ce type de période, quand le prolétariat mène de grandes batailles, mêlant revendications ouvrières et luttes politiques, les militants surgissent par dizaines de milliers et cherchent à s'organiser. C'est alors que peut se construire, en un temps relativement court, un véritable parti ouvrier. Par malheur pour le prolétariat brésilien et ses militants, ceux qui leur proposent alors une politique sont des dirigeants réformistes, auxquels même les groupes d'extrême-gauche qui ont survécu à la dictature prêtent leur concours. Lula est un de ces militants ouvriers qui lutte courageusement contre le patronat sous la dictature. Sa famille a quitté le Nord-Est pour fuir la faim lorsqu'il était enfant, pour rejoindre São Paulo. À 10 ans, il quitte l'école pour gagner quelques sous comme serreur de chaussures ou vendeur de cacahuètes dans les rues. Il rentre en usine à 14 ans. Ouvrier de l'automobile, il devient militant syndical. En 1975, Lula est le président du syndicat des 100 000 métallurgistes de San Bernardo, ce qui lui vaut quelques séjours en prison. S'il est un syndicaliste combatif et courageux, Lula n'est pas révolutionnaire. Lors d'un meeting de métallos en grève, il déclare, je cite, « Le gouvernement et les patrons sont en guerre contre les métallurgistes, mais la guerre n'est que de leur côté. Nous ne voulons pas de conflit, mais simplement récupérer un peu du sang que les multinationales nous ont pompé durant des années. » Les premiers contacts du syndicaliste Lula avec la France se font avec la CFDT, tout un programme. En 1980, Lula participe à la fondation du Parti des Travailleurs, le PT, pour donner une expression politique aux revendications syndicales. Le PT est un conglomérat des tendances de la gauche et du catholicisme progressiste, avec l'appui des groupes d'extrême-gauche. Lula parle ainsi en 1980 de son programme. « Nous n'utilisons pas le mot socialisme. Il n'a pas de sens pour nous. Nous voulons définir un modèle brésilien qui doit être original, adapté à nos seules réalités. » Les militants ouvriers que les luttes du prolétariat brésilien font surgir par centaines de milliers à cette époque n'ont finalement pas d'autre direction politique vers laquelle se tourner que celle du réformisme de Lula et des intellectuels à la tête du PT. Ils vont mettre toute leur énergie, tout le crédit militant acquis auprès des ouvriers dans des grèves dures, contre une dictature, au service de ce parti des travailleurs qui ne veut pas remettre en cause la domination de la bourgeoisie et qui va tant les décevoir par la suite. En 1985, les généraux transmettent le pouvoir aux politiciens civils. Malgré les millions de manifestants en faveur de l'élection directe du président par la population, les diretas, celui-ci est élu par les seuls parlementaires. Puis, une nouvelle constitution voit le jour, en 1988, qui prévoit l'élection du président au suffrage universel, ainsi qu'enfin le droit de vote aux analphabètes, qui ne sont toutefois pas éligibles. Mais la nouvelle démocratie parlementaire est surtout aux prises avec une crise économique profonde. Le gouvernement tâche de juguler l'inflation au travers de plans combinant changement de monnaie et blocage des prix et des salaires. Ainsi, en janvier 1989, on enlève 3 zéros à la monnaie. Mais à la fin de l'année, l'inflation atteint tout de même officiellement 1765%. Les travailleurs touchent leur salaire en liquide et avant qu'ils ne perdent trop de valeur, se précipitent pour le convertir en riz, haricots noirs et autres produits de première nécessité. À l'élection présidentielle de 1989, le mécontentement populaire s'exprime dans les 31 millions de voix qui se portent sur Lula. Le PT s'enracine aussi dans de grandes villes dont il remporte les municipalités, comme São Paulo et Porto Alegre dans le sud, mais il lui faudra encore attendre une douzaine d'années pour accéder au pouvoir. En 1992, le président Fernando Collor de Mello est rattrapé par un scandale de corruption qui provoque de très importantes manifestations. Lâché par ses soutiens, sous le coup d'une procédure de destitution, il démissionne. C'est ensuite Fernando Henrique Cardoso, le ministre des Finances, qui bâtit son succès politique sur la maîtrise de l'hyperinflation au cours de l'année 1994. Grâce à la confiance que la bourgeoisie lui accorde, son plan réel réussit à casser l'inflation qui était de 2500% l'année précédente. Le réal, 38e monnaie du pays en près de deux siècles, procure une certaine stabilité économique au Brésil et garde quelque temps la parité avec le dollar. Ce succès permet à Cardoso de remporter l'élection présidentielle de 1994 et lui donne les moyens de faire des gestes sous la forme de programmes sociaux envers les 50 millions de pauvres que compte le pays. La bourse école fait dépendre l'aide sociale de la scolarisation des enfants. Les familles pauvres, qui ont besoin des menus revenus du travail de leurs enfants, ont maintenant intérêt à les envoyer à l'école. 8 millions d'enfants y vont. La bourse alimentation est aussi créée pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes, en échange de la tenue à jour du carnet de santé, de consultation médicale et de vaccination. Cardoso est réélu en 1998 face à Lula, qui retient la leçon et reprendra plus tard ses programmes sociaux en les étendant. Les élections ne changent rien au sort des millions de paysans sans terre. Dans les zones reculées du pays, les ouvriers agricoles sont à la merci des grands propriétaires, au point de s'endetter auprès d'eux et de tomber en esclavage. Il existe bien un bureau chargé de les libérer, qui enquête sur dénonciation, mais les patrons sont souvent prévenus à l'avance par les autorités ou la police locale avec qui ils sont liés. Toutefois, ces 20 dernières années, une cinquantaine de milliers d'esclaves ont été ainsi libérés. L'extension des terres consacrées à la culture industrielle du soja et à l'élevage des bovins n'a fait que marginaliser encore plus les paysans pauvres. Les grandes propriétés occupent plus de la moitié des surfaces agricoles. Cecilio Dorejo Almeida, mort en 2008, passait pour le plus grand propriétaire foncier du monde, avec, dans le Pará, à l'embouchure de l'Amazone, une surface équivalente au territoire de la Belgique et des Pays-Bas réunis, acquise en bonne partie frauduleusement. Un mouvement des travailleurs sans terre se crée en 1984. Au fil des campagnes électorales, ses dirigeants soutiennent Lula pour obtenir de l'État une réforme agraire de grande ampleur. Lorsque Lula arrivera au pouvoir, il n'en fera rien, malgré les manifestations comme celle de 12 000 paysans sans terre à Brasilia en 2005. Dans l'immense Brésil intérieur, se déroulent des guerres civiles à une échelle locale. Les paysans pauvres s'organisent, occupant des terres non cultivées appartenant à des fazendeiros ou à de grandes entreprises. Les propriétaires engagent des tueurs pour les chasser, assassinant les meneurs. Au moins 1685 paysans sont ainsi tués de 1985 à 2012. Un des plus connus, assassiné en 1988, était Chico Mendes, dirigeant des seringueiros qui récoltent le caoutchouc. Il arrive que les sans-terres s'arment et résistent. En 1982, un paysan surnommé Quintino, chassé de sa terre dans le Pará, après s'être plaint en vain aux autorités, s'arme. Il regroupe une cinquantaine de compagnons pour prendre l'offensive et tuer des dizaines de gros propriétaires et de leurs hommes de main, avant d'être lui-même abattu par la police. Dans les campagnes, ce n'est pas la réforme agraire qui est à l'ordre du jour, mais la guerre de classe. Sous la présidence de Cardoso, des privatisations massives ont lieu, dont celle de la compagnie minière Vale, vendue 25 fois moins cher que ce qu'elle vaut réellement. Le capital étranger en profite au moins autant que la bourgeoisie brésilienne. Mais ces privatisations n'empêchent pas la dette publique d'exploser, poussant le Brésil à emprunter 41 milliards de dollars, puis 30 autres milliards. Le chômage augmente. L'État se désengage en partie du contrôle de l'économie inauguré par Vargas un demi-siècle plus tôt. Cette politique est contestée, notamment par le PT, dont les députés et sénateurs menacent à plusieurs reprises Cardoso d'une procédure de destitution. Le Parti des travailleurs administre déjà 187 communes en 2002, dont des grandes villes, Porto Alegre, Belém, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, etc. Il gouverne 3 États et a une soixantaine de parlementaires au niveau fédéral. Porto Alegre sert de vitrine au PT. C'est là que sont organisées les premières éditions du Forum social mondial, lieu de rassemblement des réformistes du monde entier. Lors de ses précédentes campagnes, Lula a été traité de rouge et même de crapaud barbu par ses adversaires. Selon eux, un ouvrier sans éducation n'est pas digne d'être président et ne saurait pas gouverner le pays. Alors, à l'approche de l'élection présidentielle de 2002, Lula tient à se présenter comme responsable, à faire oublier l'image radicale du PT des premiers temps, à rassurer la bourgeoisie et l'état-major et à garantir au FMI le remboursement de la dette. Un publicitaire élabore son slogan de campagne « Mon petit Lula, paix et amour ». Lula choisit comme vice-président un industriel évangéliste appartenant à un petit parti conservateur toujours proche du pouvoir en place. Il gagne l'élection de 2002 avec 61% des voix au second tour, mais une fois élu, Lula doit composer avec un parlement où le PT est minoritaire. Les gouvernements dirigés par le PT seront des coalitions comprenant à chaque fois des ministres issus des partis bourgeois classiques. Le premier mandat de Lula est marqué par une période de hausse des cours des matières premières, agricoles, minières et pétrolières, dont l'économie brésilienne est exportatrice. Cela donne les moyens au gouvernement de lancer des programmes sociaux qui atténuent la misère des plus pauvres. L'objectif du programme Fin Zéro est de les mettre à l'abri de la famine. La bourse famille permet aux familles populaires de toucher entre 50 centimes et 1 euro par jour si les enfants sont vaccinés, vont à l'école, et les adultes au cours d'alphabétisation et de formation professionnelle. L'efficacité de ce programme tient au fait qu'à 93%, ce sont des femmes qui en sont bénéficiaires pour leur famille. Plus de 40 millions de Brésiliens en ont profité. Lula parle en 2010, à l'issue de ses deux mandats présidentiels, du moment magique que vit l'économie brésilienne. Les 45 milliards de dollars d'investissement étrangers directs au Brésil en 2010, un record, expliquent cet emballement. Le Forum économique de Davos décerne à Lula le titre d'homme d'État mondial 2010. Dans les discours officiels, le Brésil devient un pays sorti du sous-développement et émergé. La presse mondiale se répand en commentaires extatiques. Comme ce journaliste français correspondant du Monde au Brésil, je cite, « La consommation intérieure tourne à plein régime, elle est entretenue par la fièvre d'achat que quelques 25 millions de Brésiliens qui ont depuis 10 ans rejoint la classe moyenne et découvert les charmes du crédit. » Et oui, une croissance économique basée sur le crédit, c'est bien là tout ce que peut faire, et pendant un temps seulement, le capitalisme d'un pays émergent, où le prétendu miracle économique laisse 175 millions de gens de côté. Mais même après ces années fastes, le Brésil se situe à la 85e place mondiale de l'indice de développement humain, calculé par le Programme mondial des Nations Unies pour le développement, moins bien classé que Cuba, pourtant lourdement handicapé par un blocus économique, mais où l'État a joué un rôle bien plus grand dans l'économie ces 50 dernières années. L'accession au pouvoir du PT ne remet absolument pas en cause la domination de la bourgeoisie, qui est la classe sociale qui bénéficie le plus de la période de croissance économique. La politique du PT l'y aide. Mais la croissance ne résout en rien les fragilités de l'économie brésilienne, ni ne change sa place subordonnée dans la division internationale du travail. Du passé, le Brésil a hérité un rôle de fournisseur de matières premières qui ont servi au développement industriel des bourgeoisies européennes, puis nord-américaines. Changer cela signifie changer les bases mêmes de l'économie mondiale, et cela nécessite une toute autre force que celle de l'État brésilien, la force du prolétariat au niveau mondial. En 2011, les exportations industrielles du Brésil viennent loin derrière les matières premières. l'addition des principales exportations de marchandises industrielles, automobiles et aviation, représente moins de 7% de la valeur des principales exportations de matières premières, minerais de fer, pétrole, soja, sucre, café, viande, bois. Bien des marchandises industrielles qui sont produites au Brésil, comme les automobiles dont il est le 7e producteur mondial, le sont par des multinationales américaines ou européennes. Aujourd'hui, le Brésil serait, en termes de PIB, la 8e économie du monde. Mais le pays descend à la 107e place si l'on considère que 204 millions de personnes y vivent. Le Brésil occupe une situation intermédiaire dans l'ordre capitaliste mondial. Il importe beaucoup de biens industriels venant des États-Unis, d'Europe, du Japon et plus récemment de Chine, qui sont des régions où il exporte ses matières premières. Fondamentalement, sa position reste celle d'un pays sous-développé, victime de l'échange inégal. Mais le Brésil exporte aussi le produit de sa propre industrie dans des pays encore moins développés, surtout en Amérique du Sud, où il fait figure de géant économique. Et puis, sous Lula, le Brésil a ouvert des ambassades en Afrique. Les multinationales peuvent s'y tailler une place, un marché, dans des pays qui comptent pour peu dans le commerce mondial. Quand elles arrivent à le faire, c'est sur le dos de la population pauvre, comme au Mozambique, où l'installation d'une mine de charbon de Vale a provoqué le soulèvement d'habitants qu'elle chassait, ou en Guinée, où l'armée a tué 6 manifestants qui reprochaient à Vale de ne pas respecter l'obligation d'employer des travailleurs locaux dans une mine de fer. Au pouvoir, une des premières mesures que prend Lula en 2003 est de repousser de 5 ans l'âge du départ en retraite des fonctionnaires. 3 des parlementaires du PT refusent de la voter, ils sont exclus. Lula justifie cette réforme qu'il avait combattue dans l'opposition en expliquant que les fonctionnaires sont des privilégiés en comparaison des 40 millions de Brésiliens qui n'ont pas le droit à une retraite. Arrêtez les corporatismes, pensez à l'autre Brésil, plaide-t-il. Un type d'argument anti-fonctionnaire que l'on connaît ici. Le gouvernement du PT est aidé dans ses attaques contre les salariés par la Centrale unique des travailleurs, principale confédération syndicale fondée par Lula en 1983. Aux côtés du PT, ses dirigeants syndicaux intègrent l'appareil d'État et font en sorte que la présidence de Lula ne soit pas trop perturbée par les grèves. Pourtant, les inégalités persistent. Après 8 ans de présidence Lula, le recensement de 2010 indique que les pauvres et très pauvres sont 43 millions. Que 3,7 millions d'enfants travaillent illégalement, que 39% des travailleurs gagnent moins de 200 euros par mois et 33% de 200 à 400 euros, que 9 millions d'habitations n'ont pas de réseau de distribution d'eau, 16 millions sont sans accès aux égouts, 6 millions sans ramassage d'ordures. La mortalité infantile, qui a pourtant été divisée par 4 sur les 30 dernières années, en grande partie grâce à la politique volontariste de développement économique étatique initiée à l'époque de Vargas, est encore le double aujourd'hui de celle de l'Argentine voisine. Malgré une conjoncture économique favorable et une accentuation des programmes sociaux qui lui permettent d'être réélu en 2006, la politique de Lula déçoit une partie de la base du PT. Les privilèges fiscaux de la bourgeoisie ne sont pas remis en cause. Les revenus tirés des dividendes ne sont pas taxés. Le patrimoine et l'héritage, très peu. Récemment, Lula a reconnu qu'entre 2001 et 2015, je le cite, « l'État a renoncé à 138 milliards d'euros de recettes par sa politique d'exonération fiscale aux entreprises et, ajoute-t-il, fait extrêmement grave sans rien exiger en échange du patronat. » La grande majorité de l'appareil du PT s'intègre très bien au rouage de l'État brésilien. Trop bien même pour certains, tel José Dirceu, obligé de démissionner en 2005 du poste de chef de la maison civile de Lula, une fonction proche de celle de Premier ministre. Il avait organisé le système du mensalon, la grosse mensualité, des enveloppes d'une dizaine de milliers de dollars qui, mois après mois, assuraient les votes des parlementaires à vendre pour que Lula puisse faire passer ses lois au Parlement. Dirceu purge actuellement une peine de 7 ans de prison. Succédant à Lula en 2011, car on ne peut pas enchaîner plus de 2 mandats présidentiels, Dilma Rousseff ne bénéficie pas de la même popularité. Contrairement à lui, cette dirigeante du PT ne vient pas du peuple. Militante guérilleriste dans sa jeunesse, qui lui a valu la torture et la prison sous les généraux, Dilma Rousseff a ensuite mené une carrière administrative et politique au sein d'un parti vaguement à gauche. Elle a rejoint le Parti des travailleurs juste avant que Lula n'accède au pouvoir, devenant ministre. Elle incarne la continuité avec Lula. Mais sans son aura de dirigeant ouvrier et dans un contexte beaucoup plus défavorable. La crise financière mondiale de 2008 avait semblé tout d'abord épargner le Brésil et même le favoriser, car les capitaux spéculatifs fuyant les bourses occidentales en déconfiture y avaient afflué. Mais à partir de 2012, il reflue brutalement et la descente du Brésil aux enfers recommence. L'année 2015 voit le PIB chuter de 3,8% et à nouveau de 3,6% en 2016. En une année, la production automobile chute de 22%, la monnaie brésilienne se déprécie de 30%, portant à 45% la part du budget de l'État qui s'évapore dans le service de la dette publique. L'inflation repart et ronge le pouvoir d'achat. Responsable de la catastrophe économique, la bourgeoisie est à l'offensive contre la classe ouvrière, organisant des vagues de licenciements. Et que fait le gouvernement du PT? Il la laisse faire et privatise, s'attaque à la sécurité sociale et aux retraites, à l'enseignement, aux hôpitaux et transports publics, supprime lui-même des postes de fonctionnaires. L'austérité se traduit par des coupes budgétaires affectant la bourse famille, programme social emblématique du PT. La facture de la crise est payée par les travailleurs et accessoirement la petite bourgeoisie. Cette couche, appelée parfois trompeusement classe moyenne, croyait qu'elle bénéficierait de la croissance et elle se retrouve avec horreur en voie de prolétarisation. Pour les pauvres, l'espoir d'échapper à la misère par le miracle du développement capitaliste s'est évanoui. La génération militante qui avait émergé des grèves contre la dictature a reflué. Beaucoup de militants ouvriers se sont détournés du PT, écœurés. L'ensemble de la classe ouvrière trompée et désorientée et ne participe plus activement à la lutte de classe. À partir de 2013, la politique de Dilma Rousseff est contestée dans la rue. La préparation de la Coupe du monde de football de 2014 provoque des manifestations contre l'augmentation des prix des transports urbains. Le gouvernement PT réagit par la répression, employant gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. L'indignation culmine en juin 2013 quand des millions de gens manifestent dans des centaines de villes. En 2016, les Jeux olympiques de Rio laissent une dette publique accrue une fois éteints les lampions de la fête. Ils sont l'occasion d'une prétendue pacification des favelas, surtout celles proches des stades. À Rio, elles concentrent 1 million de personnes, une population qui augmente 3 à 4 fois plus vite que celle de l'ensemble de la ville. La police militaire déserte habituellement ces zones où les habitants subissent la loi des gangs de trafiquants de drogue. Avec les Jeux olympiques, elle les a occupés, souvent avec l'assentiment de la population. La plupart du temps, la police a négocié avec les gangs, permettant aux chefs de s'échapper, puis de reconstituer le trafic de drogue de façon plus discrète. Ensuite, l'État a délaissé à nouveau les favelas, sitôt que notables et télévisions internationales sont passées à autre chose. La violence quotidienne est une des conséquences les plus cruelles des inégalités criantes au Brésil. La police, souvent corrompue, a tendance à se comporter comme une bande rivale ou associée aux gangs. Chaque jour, 8 personnes meurent sous les balles de la police brésilienne, dont 80% sont de jeunes noirs issus des favelas. L'agglomération de São Paulo regroupe plus de 20 millions d'habitants. C'est un tel concentré d'inégalités qu'elle est la première ville du monde pour les déplacements en hélicoptère, réputée moins dangereux que la voiture pour les très riches, qui vivent dans un luxe tapageur au milieu d'un océan de pauvreté. C'est dans ce contexte que la justice lance son enquête Lavage à taux, Lavage à Granger, révélant en détail au public le circuit de corruption connectant les finances du pétrolier public Petrobras, celles des plus grosses entreprises et celles de nombreux politiciens. C'est l'occasion que les concurrents du Parti des travailleurs ont saisi pour l'éjecter du pouvoir, ce qu'ils tentaient en vain de faire par les élections depuis le début des années 2000. Ils n'ont toutefois pas pu accuser Dilma Rousseff de corruption, mais d'avoir trafiqué la présentation des comptes publics pour cacher l'ampleur du déficit budgétaire, une pratique courante au Brésil et ailleurs. La crise politique s'approfondit à partir de 2015, avec comme enjeu la destitution de la présidente. Elle s'accélère avec la mise en cause directe de Lula et de nouvelles manifestations, notamment celle du 13 mars 2016, qui regroupe 3,3 millions de personnes selon la police, dont 1,4 million dans les rues de la capitale économique São Paulo. La petite bourgeoisie réactionnaire, pour qui n'importe quelle aide aux plus pauvres, si minime soit-elle, est toujours de trop, se mobilise. Le PT réplique avec ses propres manifestations de soutien à Dilma Rousseff, mais la gauche mobilise moins que la droite. Les classes populaires, considérant que les règlements de compte au sommet de l'État sont des querelles entre riches. En effet, pourquoi les travailleurs se mobiliseraient-ils en masse pour un gouvernement qui ne tient aucun compte d'eux ? Ainsi, le président du syndicat de l'automobile de San Bernardo s'est fait huer quand il est venu défendre la présidente devant une assemblée de salariés de Volkswagen en lutte contre 2000 licenciements dans la banlieue ouvrière où Lula a milité et où il habite toujours. La présidente est destituée en deux temps, d'abord provisoirement, puis définitivement en août 2016, à un moment où sa popularité mesurée dans les sondages est de 8% d'opinion favorable. Son vice-président Michel Temer lui succède. Il fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui, jusqu'à présent, ne l'ont pas poussé à la démission. Par contre, plusieurs de ses ministres ont déjà dû démissionner, comme celui de la transparence, enregistré en flagrant délit d'acheter le silence d'un dirigeant de Petrobras. Temer est fragilisé et sa politique visant au recul des droits des travailleurs et notamment de l'âge de la retraite est fortement contestée. En avril 2017, les syndicats ont organisé une journée de grève générale qui a mobilisé des dizaines de millions de salariés au moment où la cote de popularité du président tournait autour de 5%. C'est une forme de revanche pour le PT qui prépare les élections d'octobre 2018. Mais cela montre aussi que la classe ouvrière réagit aux attaques et garde ses forces intactes. Dans cette situation de crise économique, où les partis de gouvernement sont tous discrédités, il est bien difficile de prévoir ce qui sortira des urnes. La condamnation de Lula pour s'être fait offrir par les entreprises du BTP un appartement triplex et une maison en bord de mer pour une valeur de 7 millions d'euros l'écartera peut-être de la course à la présidence au profit de ses concurrents. Il reste toutefois une figure populaire grâce à son lointain passé de dirigeant ouvrier et à la chance qu'il a eue d'occuper la présidence lorsque la conjoncture économique mondiale favorisait le Brésil. Pourtant, toute l'histoire du PT montre la volonté politique constante de ses dirigeants d'utiliser la classe ouvrière comme une base électorale pour s'intégrer au jeu politique de la bourgeoisie à l'égal des partis traditionnels. De ce point de vue, c'est une réussite. L'implication du PT dans la corruption habituelle du personnel politique brésilien le montre. La bourgeoisie, par sa nature exploiteuse, ne peut que mener une incessante guerre de classe au prolétariat. Or, l'histoire politique du Brésil montre que ni Vargas, bien que le Parti communiste l'ait soutenu, ni le PT de Lula, bien que l'extrême-gauche ait contribué à sa constitution, n'ont permis à la classe ouvrière ne serait-ce que de se défendre. Au contraire, au gouvernement, ils lui ont porté des coups et surtout l'ont désarmé moralement et politiquement face à ses adversaires de classe. À présent, le tournant à droite à la tête de l'État, marqué par le remplacement de Dilma Rousseff par Michel Temer, est une réalité. Ce tournant reflète une évolution des rapports de classe menaçante pour le prolétariat. Par leur politique au nom des travailleurs, les réformistes du PT ont dressé toute une partie de la petite bourgeoisie contre la classe ouvrière. La crise économique et politique a fait descendre des millions de petits bourgeois dans les rues du pays, dont certains ont même exprimé leur nostalgie de la dictature militaire et leur rejet du parlementarisme, éclaboussé par des scandales de corruption à répétition. L'extrême droite surgit à nouveau ouvertement. Dans un pays qui compte 100 millions de salariés, la classe ouvrière représente pourtant une force potentielle considérable, mais à condition qu'elle ait conscience de ses intérêts de classe et de la politique nécessaire pour les incarner. Ceux qui s'inquiètent de l'évolution réactionnaire du pays, mais qui militent tout de même pour le retour au pouvoir du PT, en prétendant que c'est dans l'intérêt du prolétariat, ne veulent pas voir que ses dirigeants, Lula au premier chef, ont préparé eux-mêmes de longue date cette évolution. Leur réformisme est une impasse, particulièrement dans un pays dont l'économie a toujours été soumise aux aléas de celle des grandes puissances. Les travailleurs conscients, qui veulent aller de l'avant, eux, peuvent s'appuyer sur une riche tradition de lutte des opprimés. Ils ont à construire leur propre parti, un parti qui ne se contente pas de s'orner du mot de travailleur pour gagner les élections, mais dont la politique affichée soit celle du marxisme révolutionnaire, du communisme.